Et ce temps que nous passons à chanter, parfois nous oublions ce que disent les paroles. Hein, parce qu'on aime tellement la mélodie, tellement on est emporté. Et j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse un petit peu à certaines paroles de cantique, mais aussi à certaines paroles que nous pouvons lire dans la parole, justement, et qui, lorsqu'on les examine, eh bien, elles nous emmènent très loin dans le ciel avec notre Dieu. Et nos cantiques qu'on chante sont souvent empreints de poésie et qui nous emmènent souvent dans des réflexions qui nous font toucher du doigt des choses extraordinaires. J'ai relevé deux cantiques que vous connaissez par cœur, qui s'appellent Seigneur, donne-moi des ailes. Et ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous donne des ailes pour nous élever. Regardez ce que donne ce cantique, c'est le 426. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles où je vivrai près de toi. Je veux m'élever, Seigneur, c'est là-haut qu'est ma patrie. Il y a parfois, on chante ça comme ça, sans se rendre bien compte. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de chanter? Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever jusqu'à toi. Un autre cantique qui est intéressant, c'est le 519, dans le pays de la gloire éternelle. Vous avez tout de suite la mélodie qui vous revient pour... Non, il y en a qui me disent non. Pour les anciens, se souviennent de ce cantique. Écoutez ce qu'il dit. Dans le pays de la gloire éternelle, c'est 519, hein, si vous voulez avoir la musique. Dans le pays de la gloire éternelle, dans le ciel où l'on ne souffre plus, te contempler, abrité sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve. Quand tu m'auras dans ta grâce infinie fait une place au milieu des élus, mes bien-aimés partageront ma gloire dans ton ciel où l'on ne se quitte plus. Mais pour mon cœur, la suprême victoire sera d'avoir ton sourire, Jésus. On chante ça comme ça, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de chanter? Et il y a énormément de passages, on pourrait les décortiquer tous, je vous ai donné simplement deux exemples, et il y a énormément de passages dans la Bible qui parlent de choses extraordinaires. J'en ai relevé quelques-uns, que vous connaissez aussi, que je connais aussi, mais quand je les ai relus, je me dis, mais comment est-ce que je peux rester les deux pieds sur terre en lisant ces passages? Il y a un passage dans Exode, chapitre 24, versets 9 à 11. Vous savez, c'est le moment où Moïse va monter vers Dieu. Et il vient avec des amis et puis les 70 anciens d'Israël. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent Dieu. Ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Extraordinaire. Alors ça vous dit, ben pourquoi ici? Ils virent le Dieu d'Israël. Au verset 17, on dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Vous imaginez Moïse et ses trois compagnons, et puis ils virent Dieu, et c'était comme une mer de saphir. C'est incroyable de pouvoir voir toutes ces choses. Allez, il y a des passages encore plus, beaucoup plus extraordinaires qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, c'est presque un livre complètement extraordinaire que nous avons là. Et je voudrais simplement vous lire le passage où Jésus va apparaître à Jean. Vous vous souvenez, là, il y a un chant qui dit « Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, quand je serai près de toi ?» Eh bien, l'apôtre Jean, il est complètement perturbé par ça. Et c'est dans Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 20. « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Un passage extraordinaire. Je ne serais bien incapable de vous expliquer toutes les choses qu'il y a là-dedans. Mais on est dans un monde tellement matériel, on ne parle que de technique et de high technique, de choses très... très, très matériel et les gens finalement ont besoin de s'évader dans des choses. Et vous savez, le terme d'ectasis, ça veut dire tout simplement que c'est une évasion dans peut-être la grise banalité de nos existences et de nos expériences quotidiennes. Et si nous ne trouvons pas cet ectasis, cet échappement dans le spirituel que Dieu nous trouve, eh bien nous allons aller le chercher ailleurs. Les gens vont le chercher ailleurs, dans la musique, peut-être, dans la drogue, parce que la triste banalité des jours est tellement moche parfois. Alors, quand on lit la Bible, il faut être dans un état de réceptivité intuitive. On va découvrir qu'elle va nous livrer des aperçus, et ça c'est extraordinaire comme nous venons de lire, de la transcendance de Dieu. C'est-à-dire que nous arrivons à nous approcher de Dieu par la lecture de la parole. Et nous avons une sensation après, lorsque nous avons lu cette Bible avec cette façon de faire, de plénitude et d'harmonie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais lorsque vous êtes en train de méditer sur la parole de Dieu, eh bien, il y a parfois, vous êtes tellement élevé que c'est incroyable de lire ces passages. Et ces passages, cette lecture peut nous amener au sommet d'une expérience avec Dieu. Et dans ces conditions, je dirais, extatiques, eh bien, les choses qui paraissaient difficiles à comprendre, les choses qui paraissaient séparées, voire opposées, eh bien, vont se révéler d'une unité incroyable. C'est l'unité que nous trouvons dans Dieu. Alors, ce qui va nous permettre de parvenir à une conscience, je dirais, un peu plus émerveillée et finalement de mettre de côté les discussions rationalistes que nous avons parfois sur la Bible et qui finalement vont diminuer le côté extraordinaire de notre Dieu. Notre Dieu est une entité qui est tellement extraordinaire qu'on n'arrive même pas parfois à voir ce qu'il est et ce qu'il représente. Et parfois même dans nos églises, eh bien, on atténue ce côté extraordinaire en disant que il faut faire attention, hein, toutes ces descriptions sont des mythes, des images. Je crois qu'il ne faut pas aller aussi loin que ça. Il y a même parfois on dit oh mais les miracles, oui bon. Non, les miracles sont des choses extraordinaires que Dieu a fait et qu'il est encore capable de faire. Et que la parole de Dieu représente notre absolu et elle est inspirée par l'Esprit Saint. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Alors il y a un philosophe qui s'appelle Philon qui a dit « Dieu est bien plus grand que n'importe quelle conception. Plus précieux que tout ce que nous sommes en mesure d'envisager. » Alors nous manquons souvent d'imagination et comme nous ne comprenons pas tout et que nous ne pouvons pas tout expliquer, eh bien nous relativisons. Et ce que nous oublions, bien sûr, c'est d'avoir de l'attrait pour le merveilleux de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire merveilleux, la définition de merveilleux? Ça veut dire ce qui excite l'admiration, ce qui est admirable et ce qui est surprenant. Ne croyez-vous pas que notre Dieu est merveilleux? Il excite notre admiration. Alors, souvent, on relativise, mais ce que nous oublions, bien sûr, donc c'est ce merveilleux pour Dieu, et surtout avoir l'humilité pour accepter de ne pas tout comprendre dans ce que la parole nous enseigne. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors, il y a Origène, c'est un père de l'Église qui a dit « Le contenu de l'Écriture est la forme extérieure de certains mystères et la représentation des choses divines. » Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons une explication partielle de ce que Dieu est. Et quand Origène lisait le Nouveau Testament, il n'arrêtait pas de s'émerveiller sur la profonde, écoutez, la profonde obscurité des mystères insondables qu'il contient. Et c'est vrai qu'il y a des mystères. Il y a des mystères. Et fréquemment, il tombait sur des passages, des milliers de passages, qui offraient, comme à travers une fenêtre, une ouverture étroite sur une multitude de pensées profondes. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole, il y a des mystères, mais ces mystères nous ouvrent, je dirais, la fenêtre sur Dieu. Et souvent, la sagesse divine, eh bien, introduit un certain nombre d'obstacles et de lacunes qui nous perturbent et qui nous posent des impossibilités de compréhension. Et ces passages qui peuvent nous paraître obscurs, eh bien, pour nous-mêmes, eh bien, je dirais, par un sentier étroit, eh bien, vont nous amener sur quelque chose qui est sublime, c'est-à-dire notre Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Est-ce que vous arrivez à comprendre exactement comment Jésus pouvait être à la fois homme et Dieu? C'est un mystère. Mais lorsqu'on va plus loin dans cela, il était homme, mais pourquoi est-ce qu'il est devenu homme? Parce qu'il voulait être comme nous, et il était Dieu, parce que c'est Dieu qui descend sur terre. Alors, vous voyez, de quelque chose qui est incompréhensible, vous arrivez à quelque chose de sublime. Comment est-ce qu'on peut aimer ses ennemis? C'est incompréhensible. Et pourtant, derrière ce mystère, il y a quelque chose de sublime. Comment est-ce qu'on peut comprendre la souveraineté de Dieu, et on en parle souvent, et puis la responsabilité humaine? Ce sont des choses difficiles à comprendre. Mais derrière ces mystères, nous avons toute la grandeur de Dieu. Et l'interprétation biblique, eh bien, exige de nous une pureté et une sobriété absolue, ainsi que un espèce d'envol vers Dieu. Il faut jamais oublier que la parole de Dieu, c'est le langage de Dieu, et qu'il a besoin, pour que nous le comprenions, de prendre de la hauteur. C'est pour ça, lorsqu'on chante « Seigneur, donne-moi des ailes », c'est pour ça, c'est pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous donner. Il y a un père de l'Église qui a raconté une histoire, et je crois qu'elle elle est c'est une belle histoire. Vous savez, lorsque Moïse monte au Sinaï, eh bien, au sommet, il y a un épais nuage qui arrive sur Moïse, et une espèce de nuage qui va envelopper Moïse, et Moïse ne va plus rien voir. Il ne va plus rien voir. Et pourtant, Dieu est là. Le nuage englobe Moïse. Dieu englobe Moïse. Et pourtant, Moïse est comme aveugle. Et pourtant, Dieu est là. Eh bien, nous sommes parfois dans cette situation. Nous lisons la parole, nous avons de la méditation, nous communions les uns les autres avec entre frères et sœurs. Et Dieu est là. Dieu est là dans ce nuage. Alors, parfois, notre manque de surnaturel au sujet de Dieu, eh bien, notre orgueil est à l'origine de la difficulté que nous rencontrons à la lecture de la Bible. La Bible, la lecture de la Bible, la parole de Dieu n'est accessible qu'à ceux qui se sont libérés de la moindre trace de vanité, qui se sont libérés de la prétention. Et parfois, les violentes querelles qui sont autour de l'interprétation de l'Écriture sont souvent ridicules. Pourquoi? Parce que nous nous laissons emporter, nous ne nous laissons pas emporter par les ailes de la foi et nous voulons absolument tout expliquer, tous les mystères de Dieu, comme si tous les mystères de Dieu étaient explicables par les hommes. Alors, l'Écriture a plusieurs objets. La parole de Dieu a plusieurs objets. D'abord, nous élever et nous rapprocher de Dieu. Mais elle a surtout un objet, c'est l'amour que nous devons à notre Dieu et à notre prochain. Et se quereller à propos des Écritures, on peut le considérer comme une perversion. Parce que l'objet de l'Écriture, c'est l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Alors, il nous faut méditer sur ce que nous lisons jusqu'à la découverte d'une interprétation qui tende à établir le règne de l'amour. Si votre interprétation de la parole arrive sur quelque chose qui est en dehors de l'amour que vous devez avoir pour Dieu ou pour les autres, c'est que vous avez fait fausse route. Parce que toute la parole de Dieu est basée sur cela. Et l'étude de la Bible, eh bien, doit être au-dessus des loyautés confessionnelles. Elle doit avoir pour objet uniquement l'amour de Dieu et l'amour des autres. Alors, il y a une dame qui a écrit quelque chose. Elle a dit, c'est parce que nous suivons ce chemin merveilleux, extraordinaire, surnaturel, que nous approchons de Dieu et que nous donnons envie à ceux qui nous entourent d'apprendre. C'est une belle parole, parce que c'est parce que nous sommes enchantés dans le bon sens du terme par le merveilleux de Dieu que nous allons donner envie à ceux qui nous entourent d'essayer de la découvrir. Alors il y a un personnage que vous connaissez tous, qui s'appelle C.S. Lewis, et qui a écrit, vous savez, plein de contes, et c'est pas un hasard s'il a écrit ses contes, c'est qu'il était, il avait un attrait pour le merveilleux. Et il a dit, beaucoup de gens passent à côté du sens profond de l'Évangile parce qu'ils deviennent trop rationnels. La parole de Dieu n'est pas un livret de philosophie ou de technique de méditation. La parole de Dieu est là pour nous enseigner l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Alors, il a été extrêmement. Vous savez que c'était quelqu'un qui était d'origine irlandaise et donc qui faisait partie d'une église protestante. Et il avait un petit peu laissé tout ça de côté parce que ça l'ennuyait tellement. Et il va découvrir la foi grâce à un de ses amis qui est Tolkien, hein, que vous connaissez tous aussi, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et parce qu'il était tellement intéressé par tout ce qui était merveilleux. Et il avait rencontré quelqu'un aussi qui était le doyen de la faculté de théologie à Oxford, et c'était Adam Fox. Et c'était un de ses collègues, et C.S. Lewis appréciait la compagnie de cet homme parce qu'il avait un comportement plein de douceur et de dévotion qui intriguait et défiait C.S. Lewis. Et alors, quand il va découvrir la foi, les choses qu'il va faire, c'est qu'il va retourner au culte le dimanche matin, et ses premières réflexions. Qu'est-ce que c'est ennuyeux? Parce que tout aspect merveilleux de Dieu était presque éliminé. Alors, c'est pour ça qu'il va dire ça. Beaucoup de gens passent à côté du sens profond de l'Évangile parce qu'ils deviennent trop rationnels. Et vous savez, il y a des histoires extraordinaires dans la Bible. Et je voudrais vous parler de Jacob. Vous parlez de Jacob, il y a trois événements extraordinaires. Il y a quand Jacob va lutter avec Dieu à Peniel. Alors, certains qui ont une lecture rationnelle de la Bible, oui, non, ça, ce sont des mythes. Je pense sincèrement que Jacob a lutté avec Dieu à Peniel. Jacob va parler à Dieu à Bethel. Et Jacob aussi, un petit peu avant, va avoir un songe. Et on va voir ce songe. On va lire ces passages. qui sont en Genèse 32, 25 à 32. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Une histoire extraordinaire. Jacob qui se bat avec Dieu. Extraordinaire. Deuxième passage, Jacob qui va parler à Dieu en Genèse 35. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et Isaac et je te donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel, l'endroit où Dieu lui avait parlé. Dieu parle à Jacob. Et alors le songe qui va se passer avant, on va le voir dans Genèse, chapitre 28, 10 à 22. Extraordinaire. Extraordinaire ce songe. Alors vous savez, j'ai coutume de dire que Jacob a eu un moment extrêmement profond avec Dieu. Un moment d'une très riche intensité. Et je crois que nous aussi, nous devons avoir des moments de Bethel dans nos vies. Nous devons avoir des moments très forts. Tout à l'heure, Richard parlait de ses prières avec toute la famille. Et ce sont des moments de Bethel, des moments où il y a une relation qui s'installe entre nous-mêmes et Dieu. Et il faut garder ces moments dans vos souvenirs, parce que ça vous aide lorsque vous êtes dans les difficultés, ou parfois vous avez du mal, et vous souvenir quel moment béni j'ai eu avec Dieu. Il faut que dans vos esprits, vous ayez un Bethel. Alors on va lire ce passage. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, et fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Un passage extraordinaire. Et j'ai trouvé un tableau qu'on va voir ensemble. Vous savez que j'aime bien l'art. C'est un tableau de William Blake, vous le connaissez peut-être ce tableau, il est au British Museum à Londres. Et il est intéressant parce que cet escalier, on voit Jacob là qui est endormi dans son manteau, qui a un songe. Et vous savez que le songe dans l'Antiquité, comme maintenant, était souvent considéré comme un rapport que nous avons avec Dieu. Et là, Jacob est en rapport direct avec Dieu. Vous vous rendez compte, il y a des anges qui montent et qui descendent et qui arrivent à Dieu. Alors, je vais me dire, ben, certains diront c'est un mythe, ça n'existe pas. Je crois sincèrement, sincèrement que Jacob a eu ce rapport privilégié avec Dieu, où l'on voit cette relation. Alors, les auteurs ont dit, bien les anges qui montent et qui descendent, c'est la préfiguration de Jésus. Jésus est entre nous et Dieu. L'escalier qui est étroit, c'est le chemin étroit pour monter jusqu'à Dieu. C'est fantastique. C'est fantastique que Jacob ait eu ce moment extraordinaire avec Dieu. Et il faut que nous aussi, nous ayons ces moments bénis avec Dieu, même s'ils vous semblent complètement extraordinaires, parce qu'il faut que ça reste dans vos esprits. Il faut que vous ayez du merveilleux avec Dieu. Parce qu'être trop rationnel, eh bien, vous n'allez pas comprendre la moitié des choses qui sont dans la Bible. Si vous commencez par éliminer tout ce qui vous paraît surnaturel, tout ce qui vous paraît extraordinaire ou merveilleux, eh bien, vous allez passer à côté de la puissance de Dieu. Et toutes les explications que vous trouverez en lisant la parole du Seigneur, elles doivent vous amener à une seule chose, c'est aimer Dieu et aimer votre prochain. Si vous avez une autre exégèse, si vous avez une autre explication par l'étude de la parole, si vous faites fausse route, la parole de Dieu est là pour nous amener vers lui, à son amour et à l'amour que nous devons au prochain.